débat. BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour à tous et nous sommes très heureux de vous retrouver pour une émission exceptionnelle cette semaine, mémorable. Vous vous en souviendrez certainement pendant très très longtemps. Hélas, pour la dernière fois dans cette émission, je vous dis bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, moi aussi, je suis très heureux de vous saluer aujourd'hui. C'est une émission tout à fait particulière évidemment puisque oui, c'est la dernière fois que nous serons en partenariat dans cette édition. Et en tout cas, je compte sur vous pour continuer à accompagner les auditeurs et auditrices au cours des prochaines années.
Sans vous, ce ne serait pas la même chose, Francis Laloupo, après 8 ans de collaboration.
En tout cas, on va parler des sujets de cette édition, exceptionnellement seuls 2 sujets au sommaire de cette édition, avec d'abord la RD Congo, semaine mouvementée, marquée par des manifestations dans plusieurs villes du pays contre la validation par l'Assemblée nationale de la nomination de Ronsard Malonda à la présidence de la commission électorale.
Oui, depuis le début du mois, la mobilisation ne faiblit pas. La CENCO, l'opposition, l'UDPS, le parti présidentiel, la société civile et des organisations féminines dénoncent et protestent contre cette décision de l'Assemblée nationale, accusée de n'avoir pas respecté la loi de désignation des membres du bureau de la CENI. Des manifestations enregistrées un peu partout dans le pays ont conduit à des violences et des pertes en vies humaines. Pourquoi le choix de Ronsard Malonda pour diriger la commission électorale fait-il autant de vagues? Comment sortir de cette crise qui met à rude épreuve la coalition au pouvoir en RDC? Analyse à suivre.
Autre sujet, Liliane, autre crise politique, celle du Mali. La CEDEAO, dont une mission se trouvait encore dans la capitale malienne ce vendredi, au moment où nous enregistrons cette émission, va-t-elle réussir à désamorcer la crise politique en cours dans le pays?
On attend de voir Francis, après avoir obtenu des opposants une pause dans la mobilisation. La délégation sous-régionale conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan va-t-elle pouvoir convaincre les deux camps opposés à renouer le fil du dialogue rompu entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et le M5-RFP qui demande son départ? Pour l'instant, le M5 a renoncé à la manifestation de vendredi. La classe politique, les Maliens, tout comme les pays de la sous-région, retiennent leur souffle. Notre plateau avec vous, Francis Laloupo.
Oui, il y a notre grand témoin invité dans cette édition. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Kinshasa au téléphone Jeannine Mabunda Lyoko Mudiayi, présidente de l'Assemblée nationale de la RD Congo. Madame la présidente, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et un confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Bamako, Mohamed Attaher Alidou, journaliste à Renouveau TV. Mohamed Attaher Alidou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Jeannine Mabunda, titulaire d'une licence en droit de l'Université catholique de Louvain et d'une licence en sciences commerciales de l'Institut catholique des hautes études commerciales de Bruxelles. Vous avez débuté votre carrière professionnelle en 1988 à la Citibank Congo. Vous serez 5 ans durant chargé des relations avec les grands comptes et analystes crédit, conseillère du gouverneur de la Banque centrale du Congo, la BCC, de 1997 à 2000. Vous serez nommée en 2002 directrice générale du Fonds de promotion de l'industrie, ministre du portefeuille au sein du gouvernement congolais de 2007 à 2012. Vous engagez alors une réforme inédite et fortement appréciée en tout cas des entreprises publiques de la RD Congo. Vous avez été nommée en juillet 2014 représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants. Et vous êtes membre du Parlement congolais depuis 2014, réélu en 2018 comme député national de Bumba dans la province de l'Équateur. Après avoir été désignée parmi les 50 femmes les plus influentes d'Afrique, vous avez obtenu en novembre 2019 le prix Femmes d'influence 2019 à Paris dans la catégorie politique. Première femme élue présidente de l'Assemblée nationale de la RDC, vous occupez sa fonction depuis le 24 avril 2019. Jeannine Mabunda, vous serez notre grand témoin dans cette édition de débat BBC Afrique, Africa Radio. Voilà pour le plateau, Liliane. Cap sur la RDC donc.
Tout à fait, Francis. Malgré l'interdiction officiellement pour des raisons sanitaires de toutes les manifestations pro et anti-Ronsard Malonda par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba ou des autorités provinciales, eh bien, des Congolais ont bravé la consigne et protesté dans plusieurs villes du pays. De sources policières, deux personnes ont été tuées. Un policier blessé est mort des suites de ses blessures plus tard. Mais l'UDPS, le parti du président Tshisekedi, soutient qu'il y en a eu beaucoup plus. Selon Jean-Marc Kaboun, cadre de la dite formation, six militants de l'UDPS sont morts pendant les marches de la semaine dernière, dont trois à la machette. Il accuse même le FCC, Madame Abunda, d'avoir planifié de distribuer les machettes pour massacrer les manifestants. Madame, quel est le bilan réel de ces manifestations anti-Malonda et quelle est votre réponse à ce discours de M. Kaboun qui suscite chez beaucoup de Congolais de fortes craintes?
Je vous remercie. D'abord, je crois que moi, je ne suis pas chef d'une formation politique et donc je parle ici peut-être avec, disons, un point de vue qui est factuel. Je crois qu'il faut avant tout, avant de répondre à cette question, il faut dénoncer tout choix de mouvement de rue au lieu de mécanismes de dialogue et de concertation. Alors, quand on dit qu'il y a eu des marches dans tout le pays, ou des marches pro-Malonda et anti-Malonda, je conviens avec vous que la grande surprise de ce sujet, qui s'est invité en fait sur la scène politique, c'est qu'il y a des gens qui défendent Ronsard Malonda et puis il y a des gens qui sont contre Ronsard Malonda. Et là, on se rejoint dans notre information. Des marches dans tout le pays, le Congo a 26 provinces. Il y a eu des marches à Kinshasa. Il y a eu des marches à Lubumbashi, et il y a eu des tentatives de marche au Congo central, qui est la province d'origine de Ronsard Malonda. Donc c'est, il faut remettre ça en perspective, le Congo n'est pas à feu et à sang avec des citoyens, des paisibles citoyens congolais qui marcheraient dans les rues pour ce sujet-là.
Vous concédez néanmoins qu'il y a eu de fortes protestations, on parle quand même de personnes qui ont été tuées.
Ah oui, bien sûr, je ne peux certainement pas le minimiser, j'allais y arriver. Et donc moi, je déplore quand même les casses, les blessés et les morts, parce que les marches organisées par l'UDPS le 9 juillet, parce que le 9 juillet, il faut être honnête, ce n'est pas la maman qui vend ses beignets au coin, ce n'est pas l'étudiant en médecine, ce n'est pas les boueurs, que sais-je encore, qui étaient dans la rue. C'était une marche qui était quand même plus fortement rattachée à une certaine structure politique, qui a pris cette initiative. On respecte la liberté d'expression et de manifestation, tout à fait, mais une marche qui a été interdite par le gouvernement et qui était annoncée pacifique est arrivée au bout avec des actes de vandalisme. 6 personnes ont perdu la vie, dont 2 policiers, et de nombreux blessés graves. Alors, ceux qui
Donc votre
ont
bilan est de 6 morts.
En tout cas, on parle de 6 personnes qui ont perdu la vie, et particulièrement 2 policiers. Alors, moi, je pense qu'au-delà de tout ça, ce qu'on a vu aussi, et c'est pour ça que je condamne les mouvements de rue, c'est par rapport à notre culture africaine, on a assisté quand même à des scènes outrancières où les politiciens manipulent la jeunesse ou des femmes qui s'adonnent à des comportements qui ne sont pas tout à fait compatibles avec notre culture. Et c'est pour ça que moi, avant toute chose, avant de contester les chiffres des uns ou des autres, c'est une comptabilité macabre qui ne devrait honorer aucun politicien. Je pense qu'on doit d'abord réitérer nos condoléances et celles de l'Assemblée nationale aux familles des victimes.
Je vous prie de me pardonner de vous interrompre, madame, et Francis aussi. Juste, ma question reste les réactions ou votre réponse aux accusations du cadre du FCC, du cadre, pardon, de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun, qui dit qu'il y avait comme une planification des violences de la part du FCC.
Écoutez, je ne voudrais même pas entrer dans ce débat parce que tout le monde qui est à Kinshasa sait que le 9 juillet, c'était la marche organisée par l'UDPS. L'UDPS avait annoncé qu'il ferait une marche. Il y avait des appels à la marche dans les réseaux sociaux, à l'initiative du patron de l'UDPS. Et donc, il n'y avait pas d'autres partis dans la rue, ni les partis de l'opposition Lamouka, ni les partis de la majorité. Et c'est eux qui ont pris le choix de faire cette marche. Il ne vous a pas échappé non plus, et je ne voudrais vraiment pas tomber dans un combat partisan, parce que comme président de l'Assemblée nationale, je crois que je dois veiller à révéler toutes les sensibilités, mais vous me forcez à parler du FCC, sensibilité politique auquel je suis attachée. Le FCC, lui, avait prévu une marche le 14 juillet, qu'il a annulée de façon responsable, après avoir vu justement les dégâts collatéraux causés par la marche du 9 juillet. Et donc je pense que c'est ça la responsabilité politique. Donc, des marches, oui, il y en a eu pour manifester des points de vue divergents autour de la question, en fait, de la désignation du responsable de la CENI. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin de gouvernants concentrés sur leurs difficultés du quotidien, retenus et responsables, et pas de ce type d'agissement où on sort des institutions et on met en péril la paix, la cohésion nationale qu'on a eu du mal quand même à construire sur une vingtaine d'années. Hein.
Et Madame la Présidente, parlons justement de la cohésion nationale, parce que voilà, on parle d'une nomination contestée par la société civile, l'opposition et aussi la Conférence épiscopale nationale du Congo. Alors, selon les usages, vous avez précisé vous-même que, malgré les contestations, je vous cite, « la seule mission de l'Assemblée nationale est d'entériner ce choix comme la loi le prévoit », fin de citation. Mais face aux contestations et à l'absence de consensus sur la personne de Ronsard Malonda, est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas aussi un devoir, le devoir de garantir la cohésion sociale? Est-ce que vous admettez quand même que l'Assemblée vient de valider une nomination à haut risque?
Alors, je pense que le débat ne doit pas se poser sous ces formes-là. Je crois qu'on doit toujours être régi, je pense qu'on doit quand même toujours être régi par les règles du jeu et ce que prévoient les textes en cette matière et ce qui a été fait précédemment.
Alors, nous même quand la paix sociale est menacée.
Alors, je n'ai pas dit ça, mais laissez-moi poursuivre mon propos. Je crois qu'il faut d'abord replacer le cadre légal et institutionnel. Le cadre légal et institutionnel prévoit que différentes composantes et sensibilités sont représentées au sein de la CENI. La société civile y est représentée par trois composantes, la composante confession religieuse, la composante société civile des femmes et la composante éducation civique et électorale. Alors ici, on parle en fait de la composante confession religieuse. Ils décident au travers de leur composante de la désignation de celui qui va représenter ces confessions religieuses. Et comme le dit l'article 10 de cette loi, les confessions religieuses, c'est elles qui désignent le président de la CENI. Le rôle de l'Assemblée nationale, lui, est défini aussi dans cet article 12 et il donne à l'Assemblée nationale l'obligation d'entériner le choix des différentes forces. Si demain, au-delà de la société civile, il y a des composantes politiques qui sont prévues et reconnues comme siégeant à la Commission électorale nationale indépendante, si demain des forces politiques nous transmettent un PV désignant leur responsable, ce n'est pas à l'Assemblée nationale de porter un jugement sur ces PV que nous recevons. Notre rôle est l'entérinement. D'accord. Alors je comprends bien que ça peut frustrer les uns et les autres parce que on serait dans cette espèce de débat aujourd'hui où on dit c'est l'Assemblée nationale, etc. Je crois qu'il faut pas donner à la loi, il faut pas interpréter la loi au-delà de ce qu'elle dit. Maintenant, il y a un deuxième débat, qui est un débat de fond, sur le consensus nécessaire à trouver dans toutes ces désignations. Alors, je pense qu'en ce qui concerne les confessions religieuses, j'aimerais quand même rappeler la démarche qui a été suivie sans m'emporter le porte-parole, parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, le rôle de l'Assemblée nationale et de ses 500 députés, c'est d'entériner les PV des différentes forces qui vont siéger à la Commission électorale nationale indépendante. Et donc, les confessions religieuses se sont réunies. Ce sont 8 confessions religieuses qui désignent le président de la CENI. Elles doivent le faire dans le cadre d'un consensus. Mais leur charte prévoit qu'en cas d'absence de consensus, elles participent à un vote. Dans le cadre de ce vote, ils sont 8. 6 ont donné leur faveur sur une liste de 3, bien sûr, ont donné leur faveur à Ronsard Malonda et 2, l'Église catholique et l'Église protestante, n'ont pas donné leur choix à Ronsard Malonda. Alors je comprends à partir de là que certaines sensibilités ou confessions religieuses ayant été minorisées à l'intérieur de la structure confession religieuse ont fait le choix de contester cette démarche-là pour différentes raisons.
Merci.
Alors, ce sont des problèmes qui concernent les confessions religieuses. Je pense qu'elles devraient nous montrer l'exemple d'unité et d'harmonie naturelle, sans vouloir que ce soit l'Assemblée nationale qui se porte arbitre.
Le résultat, c'est qu'on a, on a abouti à, à une nomination critique, Madame la Présidente, parce que quand on connaît le parcours de Ronsa Manonda, le rôle qui fut le sien lors des élections, à tout le moins houleuses, de décembre 2018 dans votre pays, est-ce qu'il ne fallait pas proposer des personnalités plus consensuelles à la tête de la commission électorale, quoi? Est-ce que vous êtes surprise vous-même, je dirais, par cette contestation à laquelle on assiste aujourd'hui? Parce que je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas, elle aussi, garante de la paix sociale, surtout sur les questions électorales, toujours sensible dans votre pays?
Les questions électorales ne sont pas que sensibles en RDC. L'Afrique nous montre, et l'Europe aussi nous montre, que les questions électorales sont sensibles dans tous les pays. Mais je vais peut-être faire un petit rappel historique pour qu'on regarde avec une lunette plus longue. Il me souviendra en fait qu'en 2005 et en 2015, les désignations à la Commission électorale nationale indépendante ont toujours été malheureusement des sujets relativement clivants. C'est lié peut-être à deux ou trois choses qui sont spécifiques à la RDC. La première, notre constitution, elle date de 2006. Et c'est notre première constitution. Nous avons eu trois rendez-vous électoraux. C'est la première fois aussi que nous avons eu une transition pacifique dans notre pays. Donc, on a quand même un exercice, une pratique de l'exercice démocratique qui est encore récente. Et dans un pays qui a la taille de l'Union européenne et 400 tribus, ça ne peut pas se faire sans certaines divergences de vues, tant que, évidemment, ces divergences de vues ne concourent pas à l'anarchie. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, dans l'histoire passée, en 2005 et en 2015, les désignations des animateurs de la CENI, que ce soit l'abbé Malou Malou, que ce soit Daniel Moulunda, l'abbé Malou Malou qui était un candidat catholique, Daniel Moulunda qui représentait les églises de réveil, ou Corneille Nanga, que vous avez évoqué indirectement, toutes ces désignations n'ont jamais été faites de façon facile. Il vous souviendra aussi qu'à chacune de ces désignations, il y a souvent eu une divergence ou une dissension entre l'Église catholique et les autres confessions religieuses. Alors nous ne pouvons que le constater, sans doute qu'avec le temps et avec la pratique démocratique plus ancrée, les questions électorales prendront moins de tension et de vivacité. Parce que comme je le dis, nous parlons des agendas électoraux, nous parlons en fait indirectement des élections de 2023, mais que faisons-nous en 2020 pour les Congolais ?
Madame Malbunda, alors, il y a aussi certains députés qui affirment n'avoir pas été informés que la question de l'enterrement de Ronsa Malanda et, Malanda était inscrite à l'ordre du jour. Francis disait tout à l'heure le passé de M. Malanda qui appartenait à la commission électorale sortante. Est-ce qu'au regard des tensions que sa désignation suscite, on peut envisager un retour en arrière de l'Assemblée nationale ?
Alors, de nouveau, quand vous posez la question sous ces termes, c'est comme si c'est l'Assemblée nationale qui désignait les responsables de la
CENI. Oui, vous l'avez expliqué, madame. Vous avez dit que vous n'avez fait que valider un choix fait par les confessions religieuses. Mais compte tenu de la situation aujourd'hui, les crispations autour de cette désignation, qu'est-ce que vous entendez faire? Est-ce qu'on peut envisager cela, c'est-à-dire un retrait de la validation de l'Assemblée nationale comme une piste de solution?
Alors, comme je l'ai dit précédemment, les questions de désignation des animateurs à la CENI dépendent des composantes que la loi a désignées comme étant éligibles pour déléguer des gens à la CENI. Et donc, l'Assemblée nationale n'est pas une des composantes qui est autorisée à désigner les gens à la CENI. La loi nous donne un rôle qui est bien défini. Voilà peut-être ce que je pourrais vous dire à ce stade. Alors, évidemment, je crois que les confessions religieuses, c'est d'elles qu'il s'agit ici, par rapport à cette dynamique. Et la réponse, c'est à eux de
la prendre. Merci
de la
beaucoup.
Donner. Voilà.
On marque une pause.
Le débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
avec notre grand témoin invité depuis Kinshasa au téléphone, Jeannine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, et notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Bamako, Mohamed Attaher Alidou, journaliste à Renouveau TV, que nous allons écouter à présent pour un court commentaire sur cette actualité congolaise avant de poursuivre notre entretien avec Madame la Présidente. Mohamed Attaher Alidou, quel commentaire vous inspire ce que vous avez entendu, cette affaire Ronsa Malonda qui peut-être, comment dire, porte en germe de futures nouvelles crises politiques électorales, pardon, préélectorales ou post-électorales en RD Congo?
Bon, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Hein. Je pense que madame a un peu brossé un peu ce climat tendu. Hein, qui, voilà, donc, je n'ai pas un commentaire particulier à faire là-dessus.
Donc, je vais poser la question à madame Jeannine Mabunda. Madame Jeannine Mabunda, est-ce que cette affaire Malonda ne porte pas en germe hein, de futures crises pré- et post-électorales dans votre pays?
Alors, je pense que la question mérite d'être posée, mais vous savez, on a toujours, peut-être sur l'échelle de l'activité politique démocratique africaine, on a peut-être toujours sous-estimé la RDC. La RDC, c'est ce pays dont on disait, lorsqu'on n'a pas tenu les élections en décembre 2016, c'est ce pays dont on disait que c'était le mauvais élève de l'Afrique centrale, aux côtés peut-être, et de façon tout à fait fraternelle et positive, aux côtés de l'Angola, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et d'autres. Et la RDC, qu'on n'attendait pas, a réussi quand même en décembre 2018 à faire la première transition pacifique dans toute l'histoire de son pays, dans toute l'histoire de ce pays et dans l'histoire de l'Afrique centrale, que j'appelle affectueusement une Afrique centrale des hommes forts. Mais c'est ce pays qu'on n'attendait pas, de 80 millions d'habitants, 2 millions de kilomètres carrés, qui a réussi à montrer à l'Afrique et au monde qu'on pouvait passer le témoin d'un pouvoir à un autre. Et c'est inédit, parce qu'en Angola, nous l'avons eu, évidemment, Dos Santos et l'actuel président, mais ils étaient de la même famille politique. Tandis qu'ici, c'était un passage de témoin d'un président honoraire, le président Joseph Kabila, d'une formation donnée, vers un autre président qui est, en tout cas historiquement, de l'opposition et qui est actuellement en fonction. Et donc, je pense que parier sur des crises futures politiques, c'est peut-être sous-estimer la capacité de résilience de la nation congolaise.
Alors, puisque vous en parlez, madame la présidente, puisque vous en parlez, vous évoquez donc, je veux dire, en creux, hein, la coalition FCC-CACH, hein, qui aujourd'hui donc est aux commandes de l'État, c'est-à-dire une coalition entre le camp de l'actuel chef de l'État et celui de son prédécesseur. Selon vous, madame la présidente, je vous pose une question plutôt générale, hein, donc qui ne vous engage pas politiquement. Qu'est-ce que vous pensez de cette coalition? Est-ce que cette coalition est un moteur ou un frein aujourd'hui pour la consolidation de l'état de droit dans votre pays?
Écoutez, c'est une situation inédite quand même. C'est ce que je vous expliquais il y a quelques minutes. Et cette coalition, elle est née de la volonté du peuple congolais qui a choisi finalement de voter le changement avec un président, un nouveau président à la tête de la RDC et qui a voté des députés de l'ancienne majorité présidentielle, puisque au Parlement congolais, vous avez 500 députés, 337 représentent la structure politique du président sortant, du sénateur à vie Joseph Kabila, et puis vous avez presque 100 députés qui sont, eux, de l'opposition, la MOUCA, et qui exercent vraiment avec beaucoup de dynamisme et tout le respect que j'ai pour eux, leur travail dans l'opposition. Et puis un peu 45 députés qui sont de la sensibilité politique du chef de l'État. Et donc c'est un consensus forcé que les Congolais qui ont justement eu l'habitude des turbulences institutionnelles sur les 25 dernières années, c'est un schéma que le peuple congolais a voulu nous imposer par le choix de son vote pour forcer les politiques congolais à travailler ensemble. Mais alors, comme vous dites, la coalition, ça ne peut pas être un frein. Ce n'est pas une coalition contre les Congolais, c'est une coalition qui doit être là pour améliorer les conditions de vie et impulser le développement et maintenir la paix.
Et aujourd'hui, madame Jeannine Mabunda, cette coalition va-t-elle survivre aux crises politiques qu'on observe en ce moment? Parce qu'avant l'affaire Malonda, il y a eu cette réforme de la justice qui a également mené à beaucoup de tensions, qui a également amené beaucoup de tensions au sein de la coalition au pouvoir.
Alors, je ne sais pas si c'est une question de coalition au pouvoir ou c'est une question de séparation des pouvoirs. Parce que l'Assemblée nationale, son travail, c'est de produire des lois. C'est de produire des lois, et Dieu soit loué, il n'y a pas eu que des tensions. Il y a eu des lois que nous avons ensemble, de façon, multipartisane, que nous avons fait passer. Quand nous faisons passer des lois pour la protection des handicapés, 10 millions quand même de personnes vulnérables en RDC, quand nous ratifions des dons avec des partenaires pour l'aide aux jeunes au travers des PME.
Mais quand il s'agit de questions politiques, il y a de fortes divergences, comme on l'observe. Alors, moi, est-ce que cette divergence observée sur ces deux sujets précisément, est-ce que la coalition va survivre à cela, même si on a entendu le président Tshisekedi rassurer et dire qu'il n'y a pas de risque de divorce entre le CACH et FCC?
Bon, je crois que le président est le président de la République. C'est le président que nous avons choisi. Lorsqu'il s'exprime, je crois qu'il exprime la volonté de tous les Congolais. Bien sûr, on doit convenir qu'il ne peut pas manquer de divergence d'opinion ou de divergence d'approche sur certains sujets, mais nous ne pouvons pas, au niveau de la coalition, oublier que nous avons un pays à défendre et un héritage de paix et de cohésion nationale à mener à bien. Nous en sommes tous comptables. Alors la coalition aussi, elle est placée sous l'égide il y a deux signataires de cet accord, le président de la République, qui est autorité morale dans son camp, et le sénateur à vie qui a signé avec le président actuel. Et ce sont donc les autorités morales de cette coalition qui doivent se rassurer au niveau qui leur correspond du bien fondé de cette coalition pour la préservation de la paix et de l'intérêt collectif des Congolais.
Mabunda, on a également observé ces dernières semaines que le palais du peuple, siège du Parlement, est en ligne de mire. Beaucoup de manifestants convergent vers ce palais pour en dénoncer les décisions. Est-ce que vous ne craignez pas finalement d'être perçu, disons, comme une chambre qui entrave la démocratie, empêche la bonne gouvernance et bloque toute forme de justice que réclament les Congolais?
Écoutez, moi je crois que les points de convergence vers le palais du peuple sont toujours à l'initiative d'un même groupe politique. Il ne vous a pas échappé que quand Jean-Pierre Bemba a fait sa marche, c'est un représentant de l'opposition, le palais du
leader
peuple...
Leader du MLC et membre de la MUCA.
Voilà, le palais du peuple n'était pas son point de convergence. Je crois que je ne voudrais pas en faire une caricature, mais c'est aussi permis par peut-être un certain laxisme. Vous vous souviendrez que le 12 juin, pour empêcher le remplacement d'un haut personnel politique d'un parti politique donné,
Jean-Marc Kaboul, qui a été démis de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale.
On avait déployé des policiers autour de l'Assemblée nationale. Et c'est dire aussi l'insécurité dans laquelle travaillent tous les députés. Parce qu'il n'y a pas que des députés de la coalition CACH-FCC, il y a aussi des députés qui ne sont pas de cette coalition et qui ont un vrai travail à faire, comme nous d'ailleurs, pour les électeurs qui nous ont envoyés. Et donc l'Assemblée nationale, elle fait son travail. Il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs, mais on ne peut pas reprocher à des militants d'un parti politique de venir à un endroit donné si on leur a demandé de venir à cet endroit-là. Le reste du Congo, c'est 12 millions d'habitants dans Kinshasa. Il n'y a jamais eu des Kinois qui sont venus à l'Assemblée nationale. Ils y viennent parce qu'ils s'intéressent peut-être à un débat public, parce qu'ils y sont invités, et c'est une très bonne chose. Ici, je crois que c'est un mode d'expression politique donné qui est le fait de certains groupes politiques. Donc voilà.
Francis, de toute façon, il est clair qu'il y a du plomb dans l'air entre le FCC et CACH. Francis, on passe au prochain sujet.
Très bien.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec Jeanine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, notre grand témoin, et notre confrère invité depuis Bamako, Mohamed Attaher Alidou, journaliste à Renouveau TV. On voit d'ailleurs se rendre au Mali. État d'alerte au Mali. La situation au Mali continue de susciter de vives préoccupations dans la région et chez les partenaires extérieurs du pays. À la fin de la semaine dernière, la capitale Bamako avait été secouée par de rares violences ayant occasionné un lourd bilan humain. Au moins 11 civils tués et plusieurs dizaines de blessés. Alors que le mouvement de contestation continue de réclamer la démission du chef de l'État, l'abrogation du décret de nomination de la Cour constitutionnelle annoncé par le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas suffi à désamorcer la crise. Et pour tenter d'éteindre l'incendie, une délégation de haut niveau de la CEDEAO s'est rendue depuis le mercredi dernier dans le pays. Objectif de cette mission conduite notamment par l'ancien dirigeant nigérian Goodluck Jonathan et le ministre nigérien des Affaires étrangères Kala Ankourao, également président du Conseil des ministres de la CEDEAO. Objectif donc, écouter toutes les parties afin de préconiser les solutions de sortie rapide de crise. Première question pour vous, Mohamed Attaher Alidou. Quelle réponse peut apporter la CEDEAO à cette crise quand on sait que pour bon nombre de membres du mouvement de contestation, la revendication de la démission du chef de l'État n'est pas négociable, n'est plus négociable?
Oui, Francis, la CEDEAO intervient dans un contexte très très tendu, très très compliqué. Donc c'est pas une mission facile pour la CEDEAO. Hier déjà, c'était des blocages parce que le M5-RFP reste toujours sur sa démission, son mot d'ordre premier, à savoir la démission du président de la République et de tout son et de son régime. Donc aujourd'hui, la marge de manœuvre de la CEDEAO est un peu réduite, parce que hier pratiquement il n'y a pas eu de dialogue parce que quelques membres du M5-RFP ont même quitté la table de négociation. Ils ont posé des conditions avant tout dialogue. Donc aujourd'hui, on peut dire que cette mission de la CEDEAO ne s'annonce pas facile pour le moment.
Liliane.
Mais est-ce que c'est une mission de la dernière chance? Est-ce que vous considérez au Mali que si cette mission échoue, cela signifie que la crise malienne aujourd'hui ne peut plus trouver de solution apaisée, pacifique?
Bon, ils sont nombreux, ces Maliens, qui pensent que c'est un problème entre Maliens, que c'est les Maliens même qui peuvent trouver la solution à ce problème. Donc cette mission de la CEDEAO, c'est vrai, elle vient essayer, tente d'apaiser un peu ou décrisper un peu le climat politique. Mais ils sont nombreux, ces Maliens, qui pensent que la solution se trouve au Mali et entre les acteurs du Mali.
Mais quand on dit la solution se trouve au Mali, qui peut donc participer à cette solution? On n'a pas entendu beaucoup de leaders religieux en dehors de, l'imam Diko, justement, qui est la figure du M5. Les anciens présidents, que ce soit Konaré, Alpha Omar Konaré ou encore Amadou Toumani Touré, ils ne se sont pas vraiment exprimés. Quand vous dites que la solution se trouve, doit peut-être être trouvée par les Maliens, qui peut au sein du Mali aujourd'hui aider?
C'est l'avis, j'ai dit c'est l'avis de, c'est pas ma position à moi, mais c'est l'avis de certains Maliens. Hein. Certains Maliens pensent que ce n'est pas la CEDEAO qui peut résoudre, parce que vous savez, la CEDEAO, les gens ont des préjugés souvent par rapport aux missions de la CEDEAO.
Préjugés défavorables?
Non, défavorables, parce qu'on pense que c'est un chef, un clan de chefs d'État qui se soutiennent entre eux. Maintenant, hier, parce que hier, les discussions étaient très tendues, le M5-RFP a dit clairement que ça dit qu'il n'y a pas de dialogue sur le départ du président de la République. Ils ont posé, ils ont demandé aussi à ce qu'on soutienne un peu les responsabilités par rapport aux tueries de ces derniers manifestants, des dernières manifestations qui ont fait, vous l'avez rappelé vous-même, 11 morts.
Officiellement.
11 morts. Ils ont demandé aussi la libération immédiate de l'honorable Soumaïla Cissé, qui est toujours entre les mains de ce ravisseur, et puis un gouvernement de transition. Donc ils sont sur cette position. Aujourd'hui, une rencontre est prévue entre la délégation de la CEDEAO et puis les membres du M5-RFP à partir de 15h. Donc on verra si les lignes vont bouger. Sinon, hier, les lignes n'ont pas véritablement bougé.
Oui, quand vous dites 15 heures, c'est-à-dire le jour où nous enregistrons l'émission, Francis, peut-être au moment de diffuser, il y aurait une évolution.
C'est tout à fait possible, évidemment, c'est une situation évolutive.
Après, parce que il n'est pas encore 15 heures, hein, donc on suit. Hier soir,
l'émission est diffusée samedi.
L'émission est diffusée samedi. Alors, je suppose que Madame la Présidente Jeannine Mabouda va nous, évidemment, va donner un commentaire, mais avec évidemment son devoir de réserve, hein, puisqu'on parle d'un pays étranger, vu sa position. Mais avant cela, avant de vous écouter, Madame la Présidente, encore une question à Mohamed Attaher Alidou. Mohamed, alors, les représentants au Mali, hein, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'ONU et même de l'Union européenne ont condamné le recours à la force létale par les forces de sécurité. Donc, c'était le week-end dernier, hein, lors de ces manifestations qui ont fait plusieurs victimes. Et ces organisations ont invité toutes les parties prenantes à la retenue et leur demande de toujours privilégier le dialogue. On a l'impression quand même que la communauté internationale prend quelque peu, hein, cette distance avec le pouvoir malien. Avez-vous l'impression vous-même que cette communauté internationale doute de la capacité du pouvoir malien à apporter les justes réponses à cette crise ?
Bon, la communauté internationale est là, essaie de soutenir toujours les autorités en place. C'est son rôle de soutenir, parce qu'aujourd'hui, cette communauté internationale ne veut pas voir le Mali sombrer. Cette communauté internationale qui est venue au chevet du Mali en 2012 ne veut pas encore voir le pays sombrer. C'est vrai aujourd'hui que le pouvoir ou le président Ibeka n'a pas pratiquement une grande marge de manœuvre. Aujourd'hui, même au niveau de sa majorité, il a une majorité molle, on n'entend pratiquement pas sa majorité. Et la rue aussi ne décolère pas. Donc aujourd'hui, mais on peut toujours espérer que les gens puissent parler et trouver un terrain d'entente. Parce que le président Ibeka, quand même, il n'a pas usurpé le pouvoir. Il a été élu démocratiquement et son mandat est...
Francis parlait davantage de ce sentiment de la communauté, que la communauté internationale a un peu lâché Ibrahim Boubacar Keïta.
Oui, c'est pas mon impression, parce qu'aujourd'hui, s'il est encore au pouvoir, c'est grâce au soutien de la communauté internationale. La force Barkhane est là, et puis voilà. J'ai pas cette impression que la communauté internationale a lâché le président Ibeka. Parce que d'habitude, quand c'est des cas comme ça, on voit que la communauté internationale prenne position, mais là aussi, par rapport au massacre, par rapport même aux tueries, on n'a pas véritablement senti à la communauté internationale. Donc, ce qui explique tout simplement que Ibeka a encore des soutiens, et puis des soutiens assez importants au niveau de la communauté internationale.
Mais quelles sont les concessions possibles que chacun des deux camps peut faire? Quelles sont les concessions qu'on peut espérer pour une avancée à défaut d'un règlement rapide de cette crise? Je pose la question parce qu'il y a des propositions, des suggestions qui ont été faites par le camp présidentiel, comme la dissolution de la Cour constitutionnelle ou le gouvernement d'Union nationale qui ont été rejetées.
Oui, c'est-à-dire que ça tardait, parce qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, le M5 RFP, avec son autorité morale, l'imam Mahmoud Dicko, il a demandé à ce que le M5 renonce à la démission du président et d'aller pour un gouvernement d'union nationale. Mais avec les dernières manifestations qui ont occasionné des morts, et le M5 revient encore sur son mot d'ordre de départ, à savoir la démission du président. Ça, c'était une offre. Donc, cette offre, aujourd'hui, elle est caduque, mais... J'ose espérer, je pense certainement qu'ils vont se retrouver et puis trouver un compromis démocratique pour sortir de cette crise-là.
Merci Mohamed. Francis, merci. Avec d'autres invités.
Oui, j'allais demander à Madame Jeannine Mabouda, Madame la Présidente, auriez-vous un commentaire à nous livrer sur cette crise en cours au Mali?
Écoutez, comme vous l'avez dit, c'est un pays frère et donc... on a toujours beaucoup de peine et de tristesse en tant qu'Africaine de voir des troubles dans un pays frère et ami. Et moi, en tout cas, mon souhait, on parle souvent de Mama Africa, ça veut dire que nous tous, on appartient à ce continent. Nos premiers passeports, à vous, à moi, à nous, on se sent avant tout africain. Et donc, on veut voir une Afrique stable où les divergences sont réglées autrement que par... la violence et dans le respect du principe démocratique. Et je souhaite vraiment à ce pays qui le mérite et qui est déjà en proie à des problèmes terroristes qu'il puisse rapidement retrouver le chemin qui convient le mieux aux citoyens du Mali.
Merci Madame la Présidente.
Et juste Francis, je voulais demander à Madame Abunda, est-ce que dans votre approche, vous pensez que quel que soit le niveau de tension, on pourrait demander la démission d'un président élu. C'est ça le point aujourd'hui de crispation pour la crise politique au Mali.
Écoutez, là j'ai un devoir de réserve, donc je ne voudrais vraiment pas commenter sur une situation dont je ne maîtrise pas tous les paramètres. et je crois que...
Je pose la question à l'Union africaine, par exemple, il y a une position de principe qui fait que tout coup d'État est condamné. Donc, est-ce que vous avez une position de principe sur ce point? Si c'était la RDC...
Je pense en tout cas que au jour d'aujourd'hui, la politique des affaires étrangères, c'est le président de la République tout de même qui en a l'initiative. Je pense qu'il serait assez surpris, me connaissant, que je puisse prendre position sur des sujets dont je n'ai pas tous les paramètres. Les affaires étrangères ont un ministre et ils ont un président de la République qui conduit la politique étrangère de la RDC.
On aura essayé, Francis.
Une toute dernière question, Mohamed Taher Alidou. Mohamed, alors, au cœur de cette crise, il y a le contentieux des élections législatives, les dernières en date, et l'abrogation du décret de nomination de la Cour constitutionnelle. On le sait, n'a pas suffi à calmer les tensions. Alors, beaucoup considèrent que la dissolution de l'Assemblée nationale serait un geste fort de la part du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que le président Ibeka va se résoudre à satisfaire cette revendication?
Oui, le président a tardé avant de réagir, cher confrère Francis. Hein, il a tardé avant de réagir, parce que cette proposition lui a été faite de dissoudre l'Assemblée nationale, et il a tardé, il a même ignoré cette revendication. Il a fallu qu'il y ait des morts pour qu'il puisse prendre une décision, et que cette décision, même selon des juristes, est même anticonstitutionnelle, parce qu'il ne peut pas, de mettre les membres de la Cour constitutionnelle. Donc il a aussi à ce niveau...
Et pour l'Assemblée nationale surtout.
L'Assemblée nationale et puis la Cour constitutionnelle aussi.
Oui.
Parce que l'Assemblée nationale est toujours sur place, elle est contestée, oui. Mais jusque-là, le président, il hésite toujours, il est toujours hésitant. Voilà, mais aujourd'hui, c'est son pouvoir même qui est menacé. C'est son pouvoir même qui est menacé et les gens du M5-RFP font de la surenchère tout simplement parce qu'ils ont compris en réalité que la réalité du pouvoir n'est plus avec le président.
Le pouvoir est fragile, est fragilisé. Bien, bien.
Merci Francis Laloupo, merci à nos invités. Restez avec nous.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Nous vous prions, Madame Mabunda, de rester avec nous pour cette phase de l'émission particulière. J'aurais tellement aimé remettre à plus tard et ne même jamais avoir à entrer dans cette étape de l'émission à laquelle je vous invite. Mais la décision de Francis de se retirer après 8 années passées avec nous, après 8 ans de collaboration professionnelle, d'amitié et même de fraternité, de partage et de complicité unique, me voilà obligée de me plier à l'exercice. De revoir. Je ne vous souhaite pas d'être à ma place. Je salue, Francis, votre sens de l'écoute, votre générosité. Et quand je vous appelle grand frère, cela vient vraiment du fond de cœur. Depuis notre première émission, le 5 octobre 2012 à Paris, cette appellation est sincère et traduit le grand respect, Francis, que j'ai pour vous et ce que vous êtes. Je vous exprime ma très grande reconnaissance, pardon Francis,
oui,
pour tout ce que j'ai pu faire, consciemment ou non, et que vous avez peut-être préféré, par élégance et parce que vous êtes un grand monsieur, prendre sur vous et garder au fond de votre cœur. Francis, d'autres qui ont travaillé avec vous, comme moi, ont été aussi séduits par votre humilité et votre grande simplicité. Il s'agit de certains chargés de production de l'émission par ordre. Awa Chekfaye, Thierry Richard Mbouekidina, Didier Ladislas Lando et Phil Le Montagnard, votre collègue Africa Radio.
Francis est simple, Francis est gentil et Francis est bienveillant. Même si on fait des erreurs, on sait que voilà, on sera guidé avec bienveillance. On apprend également beaucoup en travaillant avec Francis, c'est toujours dans la joie et vraiment c'est quelque chose qui est très, 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 très appréciable pour les jeunes journalistes que j'étais, en tout cas, quand je suis arrivée ici. J'aimerais te remercier pour cela, Francis. Merci.
Eh bien, merci pour ta simplicité, ton accessibilité, ta ponctualité, ton côté méticuleux dans le travail, qui sont autant d'éléments que j'ai eu à apprendre auprès de toi et dont je m'efforce à mettre en application tous les jours dans mon activité professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. À très bientôt sur les berges du fleuve Vori pour une bonne dégustation d'un plat de ndolé en compagnie de Liliane. Et merci encore pour tout.
Francis est un homme bien. J'ai eu vraiment l'opportunité d'apprendre aux côtés de Francis, qui m'a beaucoup impressionné par son humilité, sa simplicité et surtout sa grande capacité à comprendre les erreurs du débutant, à t'encourager, te pousser à aller de l'avant, à te surpasser, à te challenger toi-même. Vraiment, merci pour ce moment d'apprentissage. Merci beaucoup.
En tant que responsable de la rédaction d'Africa Radio, où tu as toujours été cette personnalité très sobre, très élégante, qui a toujours été d'une neutralité dans ce que tu fais. Et ça va être extrêmement difficile pour la personne qui viendra aussi, pourquoi pas, vapoter hein, avec sa cigarette électronique. Tu continueras certainement à donner des conseils à des personnes comme moi. Merci en tout cas pour tout ce que tu as pu nous apporter comme conseils, avisés en tout cas, et bon vent.
Voilà. Madame Abunda, vous assistez à ce moment mémorable de revoir Francis. Vous l'imaginiez tel qu'il est décrit ?
En tout cas, j'apprécie la diversité des hommages qui lui sont adressés. Et je crois effectivement, vous avez dit un peu à l'africaine, c'est un grand frère qui part avec son savoir, ses conseils. On ne peut que lui souhaiter bon vent à Francis. Il a cité un fleuve de chez vous où vous vous retrouveriez éventuellement.
Le fleuve Ouri.
Je rappelle aussi que nous avons le grand fleuve Congo qui vous attend tous si de besoin était.
Voilà, merci beaucoup Madame Mohamed. Les adieux, ce n'est pas souvent facile, hein?
Oui, c'est pas facile. On a senti beaucoup d'émotions et on apprécie le confrère, la rigueur professionnelle, l'humilité et puis on apprécie le confrère. Vous avez dit vous-même, hein, c'est un grand monsieur.
Oui, l'humilité et simplicité qui épatent et bluffent tout le monde, monsieur Laloupo. D'ailleurs, nos auditeurs à travers le monde et de nombreuses localités du continent ne sont pas en reste de la RDC, du Mali, du Congo, du Gabon. Il y en a qui sont émus, résignés, tristes, reconnaissants. Les messages à votre endroit sont tout simplement extraordinaires. Francis, écoutez, et nous vous revenons.
On entame avec Belém le Curieux, Yalkoué. Francis, vous laissez toute une foule d'auditeurs et d'auditrices dans une vaste nostalgie. Vous formez un très bon duo avec Liliane et merci pour le service rendu au continent africain à travers cette émission Renchéri Aboubakar Mahman. Ala Kérim Lamana, Francis et Liliane Chapeau, vous m'avez donné l'amour de suivre BBC Afrique. On enchaîne avec Sesmir Vodeche. Ta voix, toi-même, ta façon de commencer l'émission et le duo avec Liliane me manquera, mais hélas, cela vit. Kafando Désiré, grâce à ce monsieur, j'ai eu le goût des débats. Dès lors, je ne pouvais plus rater l'émission. On en vient à Bamideli Laourou. Depuis mon entrée à l'école de journalisme en 2010, je n'ai cessé de vous suivre. C'est un réel plaisir de vous écouter chaque fois sur les questions brûlantes de l'actualité. Ta belle voix et ton talent indéniable vont nous manquer, affirme pour sa part Abdoulaye Silamana Koundé. Et puis ce message de Peter, une nouvelle surprise reçue comme un choc. Leur duo m'a beaucoup appris, surtout dans les tournures de questions pour avoir les vraies réponses. Et puis Maïmouna Sangari, Dieu vous donne une santé de fer et une longue vie dans votre nouvelle aventure. Et puis Blaise Ali Toukatouka, très triste visiblement, je regrette parce qu'il sera irremplaçable. Fulciano Sawadogo, Francis Laloupo, du professionnalisme absolu, mais comme le dit un proverbe africain, un éléphant part en laissant l'empreinte de ses pas. Francis, tu étais le partenaire parfait pour ce magazine, estime Chris Ngondoum. Touré Mamadou Yaya, Francis est extraordinaire. Il a servi à la radio dignement, correctement et surtout honnêtement. Professeur Malamala, oh, pas ça, Francis, je suis ému. Reviens-nous une fois par an, si c'est possible, implore-t-il. Francis est un héros, scande Oki Alban Tchala. On en vient à Jean-Charles Yombi Opango. Mais où va-t-il, Francis, mon journaliste préféré? Enfin, Brahima Sana, Francis, vous méritez une décoration pour travail bien rendu.
Encore merci infiniment pour vos messages et désolé, nous avons dû choisir. Francis Laloupo, je vous assure qu'il y en a qui ont voulu réciter des prières pour vous et votre famille. C'était impossible, faute de temps. Francis,
eh oui.
Comment réagissez-vous à tous ces messages que vous venez d'entendre?
Écoutez, permettez-moi, Liliane, de réagir très peu parce qu'évidemment, c'est un moment qui n'est pas facile. Hein. C'est un moment difficile quand on attend tout cela. Donc,
mais les auditeurs ont un peu hâte de savoir où vous allez.
Écoutez,
voilà, se pose la question.
Je vais dire tout simplement qu'après quelques décennies de bons et loyaux services au journalisme, j'ai décidé de me mettre en réserve hein, de journalisme, bien entendu. Mais comme vous le savez, Lilian, quand on a été journaliste, on le demeure toujours. Hein. Et même quand on décide de ne plus exercer ce métier, disons, quotidiennement. Voilà, donc c'est un retrait paisible et qui était devenu, donc voilà, c'est un autre moment de vie qui commence en réalité.
Merci Francis. Madame Janine Mabunda, Mohamed, je garde la meilleure pour la fin et c'est la dernière escale. Pendant les 8 années avec vous Francis, il y a eu tellement de moments de fou rire hors antenne et il était tout simplement inacceptable pour moi de vous laisser partir sans livrer à nos précieux et fidèles auditeurs ces instants euphoriques partagés ensemble, captés discrètement par Abdou Diop. Entre autres victimes pour ce premier bêtisier en 8 ans, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, l'Ivoirien Amara Essi, son prédécesseur à ce poste, ou encore l'ancien ministre congolais Mathias Zon. Régalons-nous. Et à tout de suite. Monsieur le ministre Mathias Zon, vous m'entendez?
Oui. Quel genre de pantalon on va porter?
Est-ce que nous sommes dans le même sujet, Francis?
Nous écoutons Mathias Zon. Hein.
On est dans le même sujet. Vous allez célébrer l'anniversaire.
D'accord. Oui.
Alors que je suis un bon anniversaire pour les Africains, mais pour cela, il faut qu'Afrique numéro 1 continue à jouer le rôle numéro 1.
Mais, oui, oui, mais un mot pour BBC Afrique aussi.
Sera un bon tandem.
Ouais. Vous avez entendu Liliane?
Oui, attends, c'est alors, sûr.
Qu'est-ce que BBC portera? Afrique numéro 1 portera le pantalon du numéro 1. Et BBC portera la jupe écossaise.
Ah, ça c'est pas mal, la jupe écossaise. C'est Liliane qui va la porter.
Non, mais la jupe écossaise est mieux portée par les mecs, toi aussi, Francis.
Mais c'est kilt. Je promets, jusqu'à la fin de cette saison, je vais venir faire l'émission en kilt.
Rassurez, je vais chercher les tissus pour vous.
Liliane en peau de panthère, si c'était possible.
Oh, ce sera magique.
Abdi, tu n'as pas le temps d'enregistrer tout ça?
C'est fait depuis.
Ça va finir devant la CPI, cette histoire.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Je commence par le ministre Moussa Faki.
Écoutez, j'ai vu quelque part qu'il y avait un monsieur très galant qui est monté dans un bus. Il a vu une jeune dame qui est debout et qui voulait lui céder sa place. La bonne dame lui dit debout, je suis mieux. Donc,
debout, je suis mieux. Bon, voilà. Très courte, très courte, mais incroyable. Jean-Vincent, à votre tour.
Vous allez m'informer un peu avant, quand même.
Tout le monde verra que vous avez la trouille. C'est plus simple de chanter, alors, s'il vous plaît.
C'est comme chanter dans les colonies de vacances, hein, quand on venait de quitter la table. On disait « Mon petit ventre ne fait plus de pluie, et bien à mon aise, je repas fini, je file en douce rejoindre mon lit. »
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Oui, monsieur Amara, si vous voulez chanter, allez-y.
Bon, j'ai une voix de crapaud. Ça n'a jamais été mon fort de chanter. Vous savez, j'étais diplomate au Brésil, donc j'ai beaucoup chanté et dansé là-bas. J'ai été aussi à Cuba comme ambassadeur. J'ai beaucoup aimé la salsa. Donc,
bon. Quelle note vous donneriez-vous vous-même sur 20?
Sur l'émission, bien.
Non, bien sûr, sur la salsa. L'émission est terminée, monsieur Essi.
Oui, oui, bon, la salsa, ben, je dirais 18 sur 20.
Waouh.
Tu vas lui demander de chanter, comme la semaine dernière?
Oui, peut-être, ou nous raconter une blague. Donc,
une blague bissau-guinéenne.
Comme ça, quand il sera président, le jour de son investiture, c'est ça qu'on sortira.
On pourra le faire chanter?
Oui.
Pardon, excusez-moi.
Monsieur Gomez, donc on vous propose de chanter, peut-être...
Chanson, je crois que c'est vraiment nul. On va raconter une blague, peut-être, hein. Quand vous prenez votre douche et que vous laissez ce pagne quelque part, un fou arrive.
Il emporte.
Et il l'emporte. Ce que vous faites, c'est que vous ne vous mettez pas à courir à poil derrière le fou. Parce que dans le village, ils vont se demander qui est le fou et qui est le vieux. Donc ce que vous faites, c'est que vous devez vous accroupir et rester et appeler à l'aide pour qu'on vous apporte un pagne et remplacer celui que le fou vous a pris.
Voilà, Francis, on a beaucoup rigolé. J'attends toujours votre kilt écossais, je n'ai jamais vu ça.
Oui, effectivement, je l'avais gardé longtemps. Je ne l'ai pas montré, au fait.
Non, je n'en ai pas vu.
Il me semble que je l'ai porté de temps en temps, mais c'est vrai qu'on n'avait pas toujours l'image.
Sentez-moi.
Est-ce que je peux quand même dire que je vous aime tous, quand même?
Avec toutes beaucoup de joie, Francis. Et je ne sais pas...
Toutes les équipes de Dakar, de Paris.
Merci beaucoup.
Liliane. Bon, écoutez, on va pas... Le chemin continue en tout cas autrement, mais le chemin continue en tout cas. Le chemin de fraternité, le chemin d'amitié, le chemin d'amour. J'ai toujours pensé que pour faire ce métier en tout cas, et pour le faire longtemps, il fallait beaucoup aimer les gens, il fallait aimer l'Afrique, aimer le monde.
Merci.
Et puis, voilà, c'est cet amour-là qui se décline au fond pour tout le monde. Et je suis très touché par... tout ce qui a été dit, dans cette émission. Et bien entendu, vous m'accorderez, c'est peut-être l'ultime service, le dernier service que je vous demande dans cette émission, Liliane, c'est de me permettre d'être sobre, de ne pas en dire davantage parce que l'émotion est forte.
Merci beaucoup, Francis Laloupo. Je vous laisse conclure l'émission, dernier exercice avant de partir, en remerciant évidemment nos invités.
Merci à Mme Janine Mabunda, Lyoko Mudiayi qui est avec nous, notre grand témoin, présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Merci également à notre confrère Mohamed Attarer Alidou, journaliste à Renouveau TV qui intervenait depuis Bamako. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par Hugo Vallière. Merci à tous les techniciens qui ont porté l'émission depuis le début et au cours de toutes ces années, bien sûr. Chargé de production, Didier Ladislas Lando, bon vent à lui aussi, hein, parce qu'il a un long chemin à faire, il est jeune, hein, un beau chemin encore, un beau parcours à faire dans ce métier. Et comme de coutume, la formule traditionnelle, Liliane, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Et rendez-vous la semaine prochaine avec vous, Liliane, pour cette émission, bien entendu. Vous
serez au rendez-vous. Je serai toute seule.
Voilà. Francis. Et une fois de plus, je vous aime beaucoup tous.
Merci à vous. Merci pour tout, Francis. Et je vous invite maintenant, Madame la Présidente Janine Mabunda Lyoko Mudiayi, notre invitée. Vous aussi, notre confrère Mohamed Attarer Alidou, Abdou Diop qui a la réalisation, Didier Ladislas Lando, Hugo Vallière à Paris, et vous qui êtes à l'écoute, à rendre un vibrant hommage à Francis à travers de longs applaudissements et lui souhaiter bon vent et de très beaux et nouveaux épisodes dans sa vie post-débat.
Merci
salut
à vous.
Francis. Merci. Salut
merci
à tous.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à beaucoup.
Et les auditeurs,
merci aux auditeurs,
restez connectés
aux auditrices.
Sur notre page merci. Facebook. Nous allons continuer à partager ces moments sur la page Facebook. Nous vous proposons une galerie photo de Francis Laloupo et moi. Salut Francis. Merci.
Au revoir Liliane.
Au revoir.